Non.
Vous m'entendez? C'est trop fort. Bon, bon, chers amis, c'est comme j'ai dit pendant la messe, une vraie joie pour moi d'être parmi vous ce soir, ici à la paroisse de Sainte-Madeleine. C'est pas ma première fois à Nantes, mais peut-être la première fois de vraiment entrer dans la ville. Et il y a 2 ans, j'étais ici au séminaire pour le tournoi de foot inter-séminaire. On a dû affronter l'équipe féroce de Nantes. Ils sont impressionnants. C'était un très bel moment fraternel entre séminaristes et maintenant en tant que prêtre nouvellement ordonné, en fin juin. C'est vraiment un plaisir de d'être parmi vous. Et c'est ma première mission en tant que prêtre missionnaire de la Sainte Eucharistie ici en France. Donc, un moment spécial et vraiment, je suis très heureux de partager ça avec vous. Je sais que ce week-end, je suis ici plutôt pour une mission au Saint-Évêque, mais ça, l'Esprit Saint a bien ficelé les choses parce que pas longtemps après, j'ai eu un contact de Frédéric qui me proposait justement de venir pour une soirée comme nous avons ce soir. Donc, en parlant de l'Esprit Saint, je pense qu'on a peut-être lui offrir un petit chant parce que si je comprends bien, il a bien soufflé pour préparer le chemin hier et il a eu la gentillesse à arrêter pour que l'avion pouvait venir aujourd'hui. Donc, on va peut-être juste chanter l'Esprit, prier le Seigneur pour qu'il bénisse ce temps d'enseignement, de recueillement auprès du Seigneur. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, au témoigner. Souffler dans nos cœurs, renouveler tout ce qui est vieil, tout ce qui a élevé homme, pour être renouvelé à l'image du Christ, le nouvel Adam. Nous puissions à sa suite avancer au large dans cette vie vers la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aurais dû commencer par me présenter, Père Kevin Cassidy. Et sans doute, vous avez repéré un accent un petit peu pas d'ici. Et je viens d'Irlande, au pays d'Irlande, mais j'habite maintenant peut-être depuis 5-6 ans dans le sud de votre beau pays, parce qu'il m'a fallu rattraper tout le temps qu'on n'a pas eu de soleil justement, là-bas dans le Var. Je fais partie d'une communauté que je pense que vous connaissez bien, vu qu'il y a plusieurs de nos membres qui ont passé ici justement pour lancer la chapelle d'adoration et après de relancer, c'est les missionnaires de la Sainte Eucharistie. Et en ce moment, on est à peu près une dizaine de prêtres et séminaristes qui sont pas loin de l'ordination. Et notre charisme, notre mission, c'est vraiment de faire connaître et faire aimer Jésus, notre Seigneur, réellement présent, merveille des merveilles, avec nous, bien sûr, dans le ciel, mais par son sacrement d'amour, totalement, entièrement présent avec nous, parmi nous, la joie et les trésors de notre foi. Et ce soir, je propose dans notre méditation de un peu regarder ou développer dans deux temps. Peut-être un premier temps qui va être une méditation biblique sur un thème qui m'a été proposé et qui est parfait, juste pour un peu stimuler notre propre vie spirituelle, notre propre enrichissement spirituel. Dans l'adoration. Et après, dans un deuxième temps, peut-être juste de se pencher un petit peu sur les questions des fruits de l'adoration et comment ça nous impacte en tant que disciples, mais aussi en tant que membres de l'Église. Et donc, le thème pour la première partie, c'est le Maître est là, il t'appelle. Le Maître est là, il t'appelle. Et pour les bons biblistes parmi vous, vous rappellerez que ça vient de Jean 11, 28, et le chapitre qui raconte la résurrection de Lazare. Et j'avoue, j'étais très touché quand c'était Frédéric m'a proposé ce titre, parce que c'est vrai, il y a des paroles dans l'évangile qui nous touche, et après on peut voir très facilement peut-être un lien avec l'adoration, justement. Une pour moi, c'est quand Jean, quand les disciples sont sur la barque après la crucifixion de Jésus, et puis il y a Jésus qui arrive sur le bord de la mer, et il y a Jean qui dit: c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Pour moi, ça c'est un de ces moments que la parole de Dieu rejoint très fortement ce que nous vivons dans l'adoration eucharistique, ce que nous, adorateurs, on a envie que tout le monde connaît et entend. Que, voilà, c'est le Seigneur, comme Jean reconnaît, c'est le Jésus, le ressuscité, et donc les autres, après, les yeux s'ouvrent. Idem pour nous dans l'Eucharistie, de faire connaître ce trésor, sa réelle présence. Mais j'avoue de n'avoir jamais vraiment reçu ou entendu cette parole en lien avec l'adoration. Mais c'est clair que c'est très riche. Le Maître est là, il est là, il t'appelle, il t'appelle. Je pense plus ou moins, nous tous, nous avons
vécu quelque chose
de cette réalité. Si on est dans une chaîne d'adoration, à un moment, peut-être dans le parcours avec Jésus, vous avez expérimenté la présence de Jésus et le fait qu'il t'attend, il t'appelle véritablement. Et donc, pour plonger davantage dans la richesse de cette parole et de cette idée, je veux avec vous d'abord ouvrir ce chapitre d'où il se trouve. Chapitre 11 de Saint Jean. C'est un texte que nous lisons chaque cinquième dimanche de Carême, donc juste avant les événements du Pâques du Seigneur, et surtout quand on a des catéchumènes, donc quand il y a des personnes qui se préparent au baptême lors de la vigile pascale, si on en a, on veille que ce texte-là fait partie des textes qui montent vers le Pâques. Si ce n'est pas le cas, on est dans un cycle qui tourne sur 3 ans et donc ils ne vont pas peut-être forcément entendre ça. Donc, clairement, pour notre mère l'Église, c'est un texte très important et qui rejoint profondément quelque chose de mystère central de notre foi. Donc, je propose de vous le lire. Peut-être juste vraiment vous t'étendre et écouter ça parce que c'est un peu lent, mais ça mérite, ça vaut la peine de l'écouter en entier. On a une petite heure quand même ensemble. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures du jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne boude pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela, et ensuite, notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux grands disciples, allons, nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demandas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Crois en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le Maître est là, et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent et se lever bien vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils leur dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait crurent en lui. Alors, vous avez bien écouté une longue texte, je vous remercie. Je sais que c'était long, mais je me suis dit, non, il faut le faire, parce que c'est vraiment passionnant. Moi, en tout cas, ce que je pense voir. Et évidemment, on a un événement qui se passe réellement dans l'évangile avec ces trois personnes. Mais il y a une manière de le regarder, de l'interpréter, je pense, qui peut parler plus fortement à nous pour chacun de notre vie spirituelle. Il s'agit de voir les trois personnes, Marthe, Marie et Lazare, pas juste comme trois personnes, bien qu'ils sont et ils étaient, mais de les voir plutôt comme des archétypes ou des, en fait, des, comme des dimensions de ce que chaque personne a en lui-même. Marthe, c'est l'intelligence, c'est la raison. Qui cherche à comprendre, qui pose des questions, qui va pour regarder, pour voir. Marie, le cœur qui ressent, le cœur qui est le plus profond dans la personne. Et Lazare, la volonté qui pose les choix, qui choisit, qui cherche. Normalement le bien, mais dans cette vie, voilà, qui a un chemin à faire. Et donc, il se trouve que dans cette histoire, si on le lit comme ça, il y a la volonté, il y a Lazare qui est mort. Cette volonté que chacun de nous, nous avons été créés, et notre volonté a le rôle de justement nous sceller dans le contact avec le Seigneur. D'être celui qui fait qu'on ne bouge pas par rapport à ce qui est le plus important, le plus profond. Et nous voyons qu'il a été atteint, il est mort, mais bizarrement, Jésus avant dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre cela? C'est bien parce que pour Jésus, il y a mort. Mort. La mort physique est un signe et, en fin de compte, n'est pas très grave pour le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire au dernier jour? Qu'est-ce qu'il a fait déjà lui-même pour le troisième jour? Voilà. Son pouvoir est aucunement embêté, si je peux le dire comme ça, nullement embêté par cette séparation du corps et d'âme. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il veut, mais il peut le régler. Il va le régler pour tout le monde. Nous le savons. Et son résurrection, sa résurrection est la première preuve de cela. Mais, comme je disais, ce mort, sa mort physique est un signe de l'autre mort, deuxième mort. Et justement, mort spirituelle. La mort qui est la séparation de l'âme, de volonté, avec Dieu. Et là, par contre, pour Dieu, c'est un vrai problème. Parce que cela, il peut tout faire sauf forcer quelqu'un à l'aimer. Dieu, nous créons nous ayons créé à son image, à ressemblance, nous a donné vraiment la liberté pour que nous puissions entrer dans une vraie relation et un vrai lien d'amour avec lui, qui est notre vraie vie, notre vie éternelle. Mais ça se pose, ça présuppose le vrai risque, ou le vrai risque, oui, qu'on va dire non, si ce n'est pas une mascarade. Et donc, il y a cette deuxième mort. La maladie de Lazare ne mène pas à la mort. Mais ça veut dire qu'il y a une maladie qui mène à la mort. La maladie qui mène à la mort est cette deuxième mort dont Jésus joue un peu, vous voyez, sur les deux sens. La maladie physique de Lazare ne va pas mener aux deuxièmes morts parce que son cœur appartient à Jésus, comme on va le voir. Mais il y a une maladie qui mène à la mort, comme un philosophe qui s'appelle Kierkegaard a vu en méditant ce texte. Et c'est la maladie qui mène à la mort, la vraie mort, dit, ça s'appelle le désespoir. C'est ça le début dans cette vie, bien qu'on peut être vivant, bougeant et interagissant. Et pour autant, on est mort ou on est atteint par une maladie qui va nous conduire à notre mort. C'est ça le drame. C'est ça le drame de cette vie. C'est ça le drame de cette existence. On peut l'appeler le péché, mais le péché, quand il conduit vraiment à ses conséquences internes, c'est-à-dire le cœur qui ne croit plus que Dieu l'aime. Et donc, il se prive de la miséricorde de Dieu. Jésus dit dans l'évangile que si on pèche, si on dit quelque chose contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné. Mais s'il blasphème l'Esprit Saint, quelque chose de cet ordre-là, s'il pèche contre l'Esprit Saint, ça ne lui sera pas pardonné. Qu'est-ce que c'est? C'est justement ce péché de nier la miséricorde, de pas vouloir accepter la miséricorde. Ça, je pense, on peut pas trouver une meilleure définition du désespoir, cette maladie qui va conduire à la mort. Et donc, combien Jésus, il est venu pour nous relever de cela, pour nous remettre debout, pour continuer d'avancer dans cette vie, vers la vraie vie. Combien l'adoration, lui d'abord, avant tout, sa présence qui rayonne dans le monde, dans nos cœurs, dans nos vies, repousse justement ces ténèbres. Et combien après, il nous envoie des petits flambeaux, porte-flambeaux, sa lumière, son amour qui réchauffe, qui permet justement les autres de sortir de leur tombeau, de quitter leur tombeau. Comme Lazare. Pourquoi? Mais bon, ça pour commencer. Mais pourquoi justement le cœur, la maladie de Lazare n'a pas conduit à la mort, cette deuxième mort, bien que il est mort, il est au tombeau, on est d'accord? Oui. Bon, je pense que ça revient à les deux autres dans l'histoire, ces deux sœurs qui, selon comme on a dit, notre interprétation, c'est quoi? Marthe et l'intelligence. Et Marie, le cœur. Et donc, si je peux dire, l'intelligence voit tout, bien que cette volonté est un peu enterrée, l'intelligence voit toujours, cherche toujours, et le cœur désire et ressent toujours. On peut dire que, voilà, s'il continue comme ça, si Jésus vient pas, peut-être les deux vont atteindre et on est fini. Mais c'est intéressant, hein? Quand même, Jésus, il a attendu. Il n'est pas allé tout de suite. Il a attendu que ça arrive. Justement, évidemment, pour manifester qui il est et tout ça. Mais je pense par rapport à ce qu'on est en train de dire, et ça nous dit quelque chose aussi. Donc, Marthe, commençons. Quand dans notre vie spirituelle, comment on est fait, c'est l'intelligence. On ne peut pas aimer ou désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou même sans avoir une connaissance plus ou moins vague. Sinon, si on a vraiment 0,00 perception de quelque chose, je ne vais pas me mettre à désirer ou le choisir. Voyez? Et donc, c'est ça que nous voyons avec Marthe. C'est elle qui se lève le premier et elle va à la rencontre du Seigneur. Elle va le trouver en chemin. Elle raconte l'histoire et Jésus qui sait. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, il va amener son intelligence, son raison, plus profondément dans la foi. On va voir que Marthe fait un chemin de foi qui va après ouvrir la porte pour le reste. Parce que Marthe, on voit Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais avant ça, Marthe dit, oui, je sais que il va ressusciter au dernier jour. Là-bas, ça suffit pas pour Jésus. Une sorte de foi dans l'air général, elle a raison dans l'absolu, mais ça suffit pas avec Jésus, justement quand Jésus vient à notre rencontre. C'est trop général, c'est trop vague. Lui, il veut que notre foi soit focalisée, vivante en lui, et de tout, dépendre de tout et recevoir de tout de lui. Et c'est à là, à ça, qui va amener Marthe. Elle va passer ce cap entre, oui, foi dans l'air un peu général, Lazare est mort, mais si tu as été ici, mais voilà. On est perdu maintenant et je sais qu'il va ressusciter, mais bon, Jésus dit non. Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. On voit que cette foi de Marthe, il le booste, il le fait sauter à un autre niveau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Marthe, elle va trouver quoi? Le cœur, Marie. Et elle va dire au cœur, go. Réveillez votre désir. Le maître est là. Il t'appelle. Parce que il semble bien que tout un peu dépend sur Marie dans cette histoire. Elle est là. Chacun a son rôle et sa place, mais le cœur est le cœur. Et donc, elle le dit en secret, le maître est là, il t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est très beau, je trouve ça très fort. C'est qu'on voit, en fait, le cœur provoque une réaction différente chez le Seigneur, chez Jésus lui-même. Chez Jésus lui-même. Parce que quand Marie arrive, voyez, on voit la tonalité entre Jésus et Marthe. Il est plus magistral, il éduque. On voit ça, un peu cette solennité du Seigneur. Voyez, moi je suis la résurrection. Voyez, c'est. Mais en contraste, on voit Marie qui se jette à ses pieds, tout en larmes. Et là, Jésus est bouleversé. Jésus se met à frémir. Jésus se met à pleurer. voyez que la foi en nous est censée d'éveiller l'espérance. La foi, il y a combien de vertus théologales? Exactement. Foi par rapport à l'intellect, à la raison. Espérance, c'est par rapport au désir, au cœur. Charité, c'est par rapport à la volonté. Marthe, Marie, Lazare. L'espérance, c'est l'espérance qui est justement l'antidote. Quoi? Désespoir. Cette maladie, on a dit, mène vraiment à la mort. Et donc, Lazare, bien qu'il soit au tombeau, la volonté soit au tombeau, le cœur bat toujours. Elle a maintenant la porte ouverte, le feu ouvert avec la foi. Et donc, elle y va. Mais avec toute la tripe et la ferveur existentielle que seul le cœur peut vraiment montrer. Et combien c'est puissant de voir la réaction de Jésus. Combien c'est oui, nous-mêmes, on est mu par le fait que le Seigneur soit si touché par Marie. Parce que ce cœur, comme on a dit, le cœur, Pascal a dit, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est ça qui fait bouger et qui peut-être fait besoin de raison. Mais en même temps, c'est ça qui va produire les choses peut-être les plus importantes et les plus profondes dans notre vie. Et donc nous, quand nous venons à notre adoration, on a vraiment intérêt à, pas de manière artificielle, mais de chercher et demander le Seigneur d'entrer dans ce cœur à cœur, de réveiller Marie, si je peux le dire comme ça, nous. Puis après, il va tout faire, quoi. Il ne va pas être capable de nous résister. Et donc nous voyons le prière de Jésus, le Fils qui parle au Père et qui après va conduire à la résurrection de Lazare. Et ça, c'est très important. La résurrection de la volonté. Parce que dans notre adoration, Jésus, on sait, il nous aime, il nous construit, reconstruit, il nous guide, il nous conseille, mais il veut aussi que nous devenons des acteurs à notre manière et dans notre place et selon notre vocation. Mais il veut que notre volonté produise ses fruits pour la gloire de Dieu et pour le royaume. Il a besoin, si je peux le dire comme ça, que notre volonté sorte du tombeau. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mes choix deviennent vraiment le même choix que Jésus. C'est-à-dire d'aimer Dieu mon cœur et d'aimer mon prochain même comme lui nous a aimé encore plus loin. On a du chemin à faire, hein? Pas le premier, mais c'est ça le Lazare qui sort du tombeau, c'est ça le ressuscité qui veut le faire de chacun de nous, et c'est ça cette personne intégrale que les trois personnes, chacun de nous va avoir peut-être un élément qui est plus fort. Je pense que ça appartient aux beautés de tout ce que notre Créateur fait. On n'est pas tous ultra forts dans la volonté, on n'est pas tous des gens qui cherchent toujours les questions. Chacun porte sa pierre, mais en même temps, les trois sont là, en nous, chacun de nous pour travailler en symphonie et de vraiment suivre le Seigneur. Nous voyons le fruit de tout cela, en parlant des fruits que nous allons évoquer bientôt, juste dans le chapitre après. Donc, après, Jésus, il revient à Béthanie, quelques jours avant sa mort. Et là, on entend Marthe servait. Avant, elle était dans le... Elle fait pas. Moi, j'ai tout ça à faire et c'est pas... Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Non. Maintenant, c'est juste Marthe servait. Elle est vraiment qui elle est. Elle est entièrement dans les mains de Dieu et les mains du Seigneur. Elle se mesure pas par rapport aux autres. Elle est avec Jésus, avec Dieu, entièrement, en accomplissant sa vocation. Marthe serve. Lazare dit que Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, était l'un des convives. Donc lui, il est à table. Et Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la scène si mystérieuse, si magnifique, de l'onction avec ce parfum qui coûte plus d'une salaire d'une année. Jésus, et après, va l'essuyer avec ses cheveux, les pieds. Et là, nous voyons l'accomplissement des trois dimensions, capacités dans chacun de nos âmes. Parce que théologiens ou les maîtres spirituels parlent, comme on a des sens physiques, on a aussi, en quelque sorte, des sens spirituels. Les yeux spirituels, c'est l'intelligence qui voit. Pour cette capacité de voir, ça sert aux autres. On ne peut rien faire avant de voir. C'est ça un peu la base qui nous permet à agir. La volonté, c'est, on dit que la charité, c'est je cherche le mot, la consommation. Et donc, c'est le sens de goûter et d'assimiler, voyez, d'être en union avec ce que nous aimons, à tel point que nous le mangeons et nous le goûtons et on est un. Ça devient nous. Nous, en devenant ça, la charité. On a vu un peu dans la lecture tout à l'heure, doux à la bouche et amer aux entrailles parce que on a conversion à faire. Donc, tant que cette charité devient de plus en plus profonde, ces entrailles vont être transformées justement par ce que nous goûtons, ce que nous mangeons. Et l'espérance, le cœur, c'est le sens de toucher, de tenir. Et donc, nous voyons Marie qui oint le Seigneur, qui essuyait ses pieds avec ses cheveux. Et donc, spirituellement, à 100% vivant, vraiment, sorti du tombeau, si je peux le dire comme ça. Les trois. Bon, pour revenir à nous, c'est ce parcours, le maître il t'appelle, il est là, le maître est là, il t'appelle, que chacun de nous sont invités à plonger dedans, dans notre propre vie, dans notre où on est sur le chemin avec Jésus, de vivre ce dialogue. De devenir plus en plus conscient de où j'ai besoin, le Seigneur, de transformer, purifier, ressusciter dans ma vie. Peut-être en pensant par rapport à ces trois dimensions qui comprend ce que nous sommes, au moins au niveau spirituel, pour chacun de nous. Je pense si ça se fait. Justement, comment il s'appelle? Nietzsche, un des les grands critiques du christianisme disaient que si vous aviez des regards de ressuscité, peut-être je me mettrais à croire. Des fois, on est tellement. Évidemment, chacun se prend de sa croix et venir au suite du Seigneur. Donc, c'est pas une question d'être. Mais il y a quelque chose de profondément vrai. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de vivre cette résurrection. On a tous besoin de quitter ce tombeau. Et donc, on a tous besoin que ce Marthe, Marie et Lazare se déploient et vivent chacun de nous. C'est le même Jésus qui marchait là dans l'évangile, qui interagissait, qui vient vous dire, moi, je suis la résurrection. Qui, si je ouvre en honnêteté devant lui qui je suis et d'où je souffre et combien j'ai besoin de lui, va se mettre à frémir et pleurer avec moi et de prier le Père pour moi. Et en fin de compte, va me dire, déliez-le et laissez-le aller. En chaque fois quand nous quittons la chapelle d'adoration, nous devrions avoir cette parole sur le cœur, méditer. Est-ce que pendant ce temps avec Jésus, avec toi, Seigneur, je te laissais me délier et aller libre. C'est ça qui veut lâcher sur Nantes. C'est ça qui veut lâcher dans le monde. C'est ça, nous le savons. C'est ce qu'il a vraiment lâché avec les apôtres, qui étaient des hommes et les femmes dans la première communauté aussi, comme nous. Mais après la résurrection, et avec le don de l'Esprit Saint, l'expérience de l'Esprit Saint, voici aujourd'hui, grâce à ce que ces personnes ont vécu et grâce justement à ce que le Seigneur continue à faire vivre pour son Église et dans son Église. Donc, voilà pour le. Il est là, il t'appelle. Bon, je suis un peu débordé le temps, mais pour peut-être juste de manière synthétique toucher sur les fruits de l'adoration, on aime parler de trois niveaux. Il y a le niveau personnel, paroissial, communauté locale, et puis universel, planétaire, si vous aimez l'épée. Donc, je pense qu'on a déjà vu quand même les fruits au niveau personnel. Chacun de nous sont baptisés et quand on est baptisé, c'est la foi, l'espérance et la charité. La vie théologale qui nous est donnée, la vie d'enfant de Dieu, c'est ça qui est appelé et qui est donné à grandir en nous, comme on grandit comme bébé jusqu'à adulte. C'est ces trois dimensions qui sont vraiment ce par quoi nous savons, enfants de Dieu, et nous pouvons, si je peux dire, mesurer, faire le point par rapport à notre chemin. Et donc, je pense qu'on a déjà suffisamment médité là-dessus. Juste peut-être pour dire en même temps, un des fruits personnels très importants, ce qu'on avait déjà vécu ce soir, c'est le fait que l'Eucharistie, c'est un triple mystère, sacrifice, communion, banquet, présence. Et donc, la présence, l'adoration, le temps avec Jésus, ça nous conduit à une participation de plus en plus profonde à la messe, avec la liturgie qui est vraiment la source de l'Eucharistie, et ce que l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Et donc ça c'est clair que ça va conduire à comprendre et vivre quelque chose de ce mystère plus profondément. Mais au niveau paroissial, ça fait d'abord et avant tout, vous voyez, on peut avoir tendance à regarder des choses que nous faisons, et il faut, et c'est bien, mais nous le savons, l'Église est d'abord une réalité mystique, une communion spirituelle dans laquelle on est appelé à se déployer, le corps du Christ, le corps du Christ, l'Eucharistie, mais le corps de Christ, nous. Et donc de prier dans une chaîne d'adoration, en se reliant, en priant pour la paroisse, pour l'église locale, et pour les uns les autres, l'Esprit Saint, il est à l'œuvre. Bien sûr, il est à l'œuvre pour enrichir. Et après, nous avons à prendre nos initiatives personnel et entre nous pour se connaître mieux, peut-être faire des temps de travail ou je sais pas, ensemble, même juste des petits contacts, passons le bâton dans la chaîne. Mais le savoir avant tout, c'est le Seigneur qui nous devance, c'est le Seigneur qui fait croître la charité et le lien entre nous. Et puis, bien sûr, c'est de prier pour. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous faites de manière explicite dans la paroisse, mais je pense que c'est vraiment très important. On vient évidemment parce qu'on a notre vie spirituelle personnelle avec Jésus et on a tout ce qu'on a à vivre et à raconter avec lui. Mais on est vraiment là aussi comme des intercesseurs pour l'Église ici. Comme Moïse, vous connaissez l'histoire dans le livre des Nombres, les peuples sont dans la bataille, et c'est Moïse sur la montagne,
qui a les bras levés comme ça.
ça. Et autant que ses bras sont levés, le peuple gagne, et quand ses bras tombent à cause de fatigue, c'est l'ennemi qui a le dessus. C'est évident, c'est évident le lien. Et après, c'est justement deux Hur et Aaron qui viennent soutenir les bras de Moïse pour qu'il ne tombe pas. C'est comme justement cette chaîne qui se relie, voyez, en passant le bâton, pour que la supplication, le Seigneur, il peut tout faire, mais il veut notre demande, il veut notre intercession. C'est très important à conscientiser ça, je sais pas, de rendre conscient notre démarche comme ça. C'est aussi, je crois, très important pour chacun de nous, notre propre vie spirituelle, parce que le Seigneur veut pas qu'on reste centré sur nos. Évidemment, il veut entendre ce qu'on a dans notre cœur. Notre prière personnelle. C'est très bien, c'est très important. Mais il veut aussi, comme Lazare, dans cette charité, on a besoin de prier. Et ça, c'est juste l'économie divine, spirituelle, ça nous fait un bien de fou aussi, en exerçant notre supplication, notre prière pour les autres. Il va me rejoindre, il va me bénir là-dedans. Aussi, moi j'ai vu, j'ai expérimenté combien Jésus, quand il y a cette chaîne de prière, d'adoration, il travaille vraiment en tant que bon berger, bon pasteur. J'ai eu des expériences de ça où les. On n'a pas de voilà être dans une méfiance de ce qui nous entoure, mais j'ai vu comment il y a des loups dans la vie et dans le monde. C'est juste et on a tous à se battre avec notre propre loup de temps en temps en nous. Mais malheureusement, dans l'Église, en dehors de l'Église, il y a des loups. Jésus, il dit bien que les mercenaires s'enfuient, devant les loups et les brebis fous. Ils sont dispersés. C'est le bon pasteur qui tient place et qui protège les loups. J'ai vu ça. Et c'est pas pour raconter, mais vraiment, et le Seigneur m'a aidé à comprendre et voir. En fait, il y avait un lien direct entre la prière et l'adoration. Et j'ose le dire, bon, l'adoration de nuit aussi. Je sais que voilà, c'est. Mais c'est cette. Je sais pas l'expliquer, mais. C'est qu'il reste avec nous, éveillé, tant que l'Église continue à le chercher et à se mettre devant lui. Les autres fruits, c'est par exemple avec des jeunes, des groupes d'aumônerie, des catéchismes. Ce que nous faisons, c'est d'intégrer un petit temps d'adoration, 10 minutes, 15 minutes, chaque fois qu'on les rassemble. Après, ils font leur temps de jeu, ils font leur temps de formation et tout ça. Mais à la fin, d'avoir ce temps d'adoration, et je peux vous témoigner, en fait, on a une quarantaine des collégiens à notre aumônerie, sur la paroisse. Et imaginez, ils sont tous très surexcités pendant le temps de jeu et voilà. Mais dès qu'on a vraiment les amenés, et ça peut être difficile à justement les recadrer un peu quand il faut un temps de formation ou quoi, c'est normal, c'est un peu ça le monnerie. Mais quand il s'agit de passer à l'église et avoir le temps d'adoration dans une ambiance très porteur, ils sont vraiment très respectueux. Ils entrent vraiment dans cela. Et je pense que eux, ils sont profondément heureux d'avoir ce temps d'adoration ensemble, en silence. C'est différent de temps en temps. Mais voilà un des fruits qui porte sur les jeunes, également dans l'œuvre du catéchisme. Et puis, bien sûr, des vocations. Des vocations sacerdotales, religieuses. Moi-même, je suis un fruit de cela, de l'adoration, le fait que combien d'autres séminaristes ou d'autres hommes que j'ai rencontrés, c'est grâce vraiment à un moment de contact, d'expérience de Jésus dans le Saint-Sacrement dans lequel la vocation naît. Je pense que c'est un fruit assez important. Et puis, juste pour terminer, des grâces plus universelles. Pape Jean-Paul II disait, il dit, par l'adoration, les chrétiens contribuent mystérieusement à la transformation radicale du monde et la germination de l'Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui sont loin de lui. Il veille devant lui en leur nom. C'était Jean-Paul II, le 750e anniversaire de la fête de Dieu, qu'il a écrit cela. Bon, il y a tellement de fruits, tellement de choses qu'on peut évoquer, aussi dans des combats plus dans le domaine social, qui touchent sur la vie. Je connais un prêtre américain qui disait que là où il y avait l'adoration qui a commencé, clinique d'avortement, pas longtemps fermée, puis après quelques années, quand ils ont lâché la chapelle d'adoration, les cliniques d'avortement revient, puis ils se sont remis et l'autre c'est parti. Donc, vous voyez, mais je pense que ça revient justement à ce que je disais par rapport à le bon pasteur. Jésus, il est fidèle. Il veut faire son travail, si je peux le dire comme ça. Mais à nous de lui demander, à lui faire rayonner derrière les scènes comme quand il est adoré et aimé dans son sacrement d'amour. Donc je pense que c'est un bon moment de peut-être passer justement au maître, d'avoir un temps de prière ensemble. On va, si vous nous donnez juste quelques minutes, on va exposer le Seigneur et puis nous aurons juste un temps où on écoutera un petit peu l'évangile que nous venons de lire, mais en morceaux, puis une courte méditation, un chant, puis un temps de silence. On va répéter peut-être comme ça 2, 3 fois selon que le temps nous permet. Voilà. Très bien.